Vous êtes sur RTL.
On la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et merci à Christelle Rebière. Je rappelle donc que le maire de Bron dans le Rhône a été à nouveau menacé mercredi et même agressé verbalement, physiquement. Ce n'est pas la première fois qu'il est la cible de menaces. Vitres brisées, rétroviseur cassé. La voiture de Jérémy Bréau a été endommagée à la sortie d'une réunion à propos de l'insertion des jeunes. Le véhicule a dû être pris en charge par une dépanneuse. On est donc avec Jean-Claude qui est en Charente et qui est maire et qui peut-être peut réagir.
Maire honoraire.
Donc, comment vous réagissez? Et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que dissuader d'attaquer un maire et un élu de la République?
Bien, je pense que ce qu'il faudrait faire déjà, c'est prendre conscience des responsabilités que le maire assume. C'est-à-dire que les responsabilités qui nous sont confiées sont des responsabilités où évidemment certaines personnes qui ont quelques difficultés avec la réglementation et la loi, eh bien, s'opposent et rendent le maire responsable de tous les malheurs qu'ils subissent. Le maire est à la fois un élu représentant les citoyens, et il est en même temps un agent de l'État. C'est-à-dire qu'il applique la loi. Et quand vous êtes maire et que vous avez la responsabilité de signer des certificats d'urbanisme ou des permis de construire, évidemment que parfois il y a des citoyens qui ne sont pas toujours satisfaits. Ce qu'ils oublient, c'est que le maire, quand il signe par exemple un permis de construire au bord d'une voie départementale ou d'une voie nationale, il y a un avis qui est donné soit par le département ou par l'État et qui peut être un avis défavorable. Mais c'est le maire qui signe. Et à ce moment-là, le citoyen qui n'est pas satisfait, eh bien, rend le maire responsable de l'échec de son certificat d'urbanisme. Et donc, à ce moment-là, ça se traduit comment? Eh bien, pendant très longtemps, ça se traduisait par quelques mots désagréables. Les mots ont enflé et maintenant, on en vient quasiment au coup. Ce que j'ai subi, moi, en 2008, lors d'une réunion publique, un chef d'entreprise qui n'était pas satisfait des résultats de ses certificats, eh bien, m'a tout simplement violenté, déchiré les documents que je tenais à la main, lancé dans la salle et je me suis retrouvé ensuite aux urgences de l'hôpital. Le problème, c'est que suite à tout ça, eh bien, est-ce que la police et la justice, est-ce qu'ils vont instruire à charge ou à décharge? Et on a un peu l'impression, parfois, que c'est à décharge.
Vous me surprenez, mais c'est vrai que, alors évidemment, chaque cas est différent.
Que c'est à charge.
Je me suis trompé, que c'est à charge. Et d'une certaine manière, je pense que les auditeurs avaient rectifié d'eux-mêmes.
Oui.
Jean-Claude, alors, évidemment, aucun incident ne ressemble à un autre incident. Mais la spécificité du cas de M. Bréau, et c'est pour ça que je trouve que c'est un cas d'école. Il est maire depuis moins d'un an, puisqu'il a été élu l'année dernière. C'est un maire républicain. Il fait campagne sur la sécurité, parce que c'est un problème majeur à Bron. Et il veut s'attaquer donc à la délinquance et sans doute au business de la drogue. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Il a 95 ou 99%, j'imagine, de ses administrés qui n'en peuvent plus et qui sont derrière lui, sur ce point en tout cas. Et il se heurte à une résistance des gens chez qui tu viens empêcher de faire leur petit business. Et c'est ces 30 personnes, manifestement, hier, qui l'ont insulté et qui l'ont menacé, puis qui vont sans doute poursuivre leur activité. C'est ça la difficulté. Et à ce moment-là, la question que je vous posais, c'est que doit faire l'État? Qu'est-ce que tu dois faire? Sachant que c'est très, très difficile parfois d'intervenir parce qu'il faut des preuves, c'est ce qu'il disait également, le maire de Bron, il dit, ces gens, on les connaît. Mais c'est très compliqué pour la police parce que tu interpelles pas les gens comme ça. Faut des preuves, faut des éléments matériels, etc. C'est ça qui est pas simple à faire, en fait, dans un état de droit, entendu.
Non, mais il faut déjà que l'État montre l'exemple. Oui. Je prends par exemple le cas, encore récemment, il y a quelques mois, j'ai été insulté, menacé par un homme adulte qui faisait de la moto sur les trottoirs, qui mettait en danger vraiment la population. Bon, eh bien, apparemment, pour l'instant, c'est classé sans suite. Il a agressé également des citoyens. Les citoyens n'ont aucune nouvelle. Et pour l'affaire dont je vous parlais, par exemple, qui a été devant la justice, moi, je me suis fait insulter par le juge. En tant que maire, je me suis fait insulter par le juge.
Qu'est-ce que vous appelez insulté par le juge? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Dans l'audience, il vous a insulté?
en cabinet, c'est-à-dire dans son cabinet, lorsqu'il y a eu la confrontation entre ce chef d'entreprise et moi-même et nos avocats respectifs, le juge, qui était peut-être un peu fatigué, un peu énervé, il trouvait à l'époque que tout ça, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. Et donc, voyant que celui qui m'avait maltraité ne savait pas trop se défendre, il a fini par dire, mot pour mot, Pascal, il a fini par dire, mais dites-le qu'il nous fait chier. Voilà exactement ce qui s'est passé. Et mon avocate, j'en veux le mot parce que c'est exactement, j'ai dit à mon avocate, mais vous réagissez pas? Elle m'a dit oui, mais ce serait dans une autre juridiction, je réagirais. Mais moi, si je réagis, ça va être difficile après pour moi face à ce juge.
Bon, Jean-Claude, évidemment, ce que vous dites, je le dis souvent à l'antenne, on peut pas vérifier ce que vous dites, mais il n'y a pas de raison de ne pas vous croire en même temps. Donc, merci de ce témoignage. On va marquer une première pause. Je salue le retour de Greg Caradoni et on va être avec le maire de Valence, monsieur Daragon. Et c'est intéressant parce que monsieur Daragon, il a signé en début de semaine, une tribune menaçant un même maire, c'est menacer la République. Et il se trouve que cette tribune a été signée par Xavier Audot, Jérémy Bréau, donc le maire de Bron, Nicolas Daragon, le maire de Valence, et Alexandre Vincent Day, qui est le maire de Rieux-la-Pape. Mais que proposent-ils ces maires? Ils disent il est urgent de déchoir de leurs droits civiques toute personne coupable d'outrage ou de violence à l'égard d'un élu. J'ai envie de dire, et monsieur Daragon, je vais le dire avec un peu de provocation dans deux secondes, je pense que les gens qui vous insultent, les gens qui vous jettent des projectiles, si vous leur enlevez leurs droits civiques, ça leur fait une belle jambe. Je pense que ça va pas beaucoup les ennuyer. Je pense qu'il faut être peut-être plus dur et plus répressif. Mais c'est la discussion qu'on va avoir dans une seconde avec le maire de Valence. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal.
Et je salue Laurent Tessier, évidemment, ça fait beaucoup réagir l'affaire de Bron.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Le maire, les Républicains de Bron, près de Lyon, Jérémy Bréau, a fait l'objet hier soir d'insultes, de menaces physiques, de jets de projectiles. Frédéric Perruche l'a rencontré dans la matinée.
On nous a prévenu qu'une voiture était en train d'être caillassée sur le parking d'à côté, défoncée. Sur place, on a retrouvé une dizaine d'individus d'une grosse vingtaine d'années qui étaient déjà là à notre arrivée une heure avant, qui ont commencé à nous insulter, à nous menacer physiquement et puis aussi à nous lancer des projectiles, canettes de bière, bâtons et puis cailloux. Oui, c'était honnêtement c'est anxiogène, ouais.
Nos maires sont-ils en danger? Peuvent-ils lutter contre la délinquance sans risque de représailles? Il a courage à lui, écrit Mireille sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Il n'a pas baissé les bras pour faire respecter son autorité. Courage à tous les maires victimes de pression. Il faut de lourdes condamnations, demande Véronique. Cette violence est devenue quotidienne, déplore Fabrice. Qui veut devenir encore élu, demande Benoît. Et les maires ne doivent rien lâcher, continuer à lutter contre cette délinquance. Soutenons-les, conclut Agathe sur la page Facebook.
Je salue monsieur Daragon, maire de Valence. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Je lis votre tribune, menacer un maire, c'est menacer la République. Vous avez publié le 23 février dernier. Vous écrivez ceci, nous n'accepterons plus l'excuse de la liberté d'expression comme par avant de la pulsion de haine. Vous dites également, nous ne sommes pas des têtes à claque, nous ne sommes ni des punching balls, ni des exutoires. Et je le disais il y a une seconde, vous dites, il est urgent de déchoir de ses droits civiques toute personne coupable d'outrage ou de violence à l'égard d'un élu. Mais est-ce suffisant, monsieur Daragon? Est-ce que vous pensez que les gens qui vous agressent, si vous leur ôtez leurs droits civiques, ça va les dissuader?
Ça n'est absolument pas le sujet unique. Évidemment que ça n'est pas suffisant. Ça veut dire que quelqu'un qui agresse toute personne, et qui plus est quelqu'un qui est dépositaire d'autorité publique, doit être sanctionné lourdement, comme le prévoit déjà le code pénal. Mais ça arrive suffisamment rarement pour qu'on commence à s'en révolter au sein de l'Association des maires de France, pour rappeler que nous sommes dépositaires d'autorité publique, nous sommes les visages de la République, nous sommes au contact au quotidien et donc victimes de ces agressions, de ces insultes et parfois de violences physiques. Hier, l'agression de mon collègue Jérémy Bréau me révolte. Le sujet, c'est il doit être sanctionné, évidemment, avec de la prison, avec une amende, avec des dommages et intérêts, mais il doit être aussi déchu de ses droits civiques, tout simplement parce que s'en prendre aux représentants de la République, c'est nier la République. Et donc, c'est nécessairement se voir privé d'y participer pendant un certain temps. Donc, on demande un complément à ce qui existe déjà aujourd'hui, mais notre combat principal, c'est déjà que la police puisse faire son travail et que la justice sanctionne lourdement les auteurs.
Mais est-ce que vous avez le sentiment précisément, parce que l'autre jour, par exemple, il y a eu un Black Bloc qui a agressé un policier. Et c'est un représentant de l'État. C'était place de la Bastille. Chacun avait vu ces images. Et puis, cette personne, Black Bloc, est passée au tribunal, en correctionnel, en l'occurrence. Et cette personne a écopé d'une peine de 18 mois de prison, dont 8 avec sursis, c'est-à-dire 10 mois ferme. Donc, vous avez un Black Bloc qui s'en prend à un policier, qui a failli, disons-le, ou qui aurait pu le tuer, disons-le. Hein. Et j'ai entendu les syndicats de police qui ont dit, écoutez, la peine, elle est quand même très légère, les Black Blocs. Ils savent que lorsqu'on s'en prend à un policier, ben on prend 10 mois ferme. De la même manière, si on s'en prend à un maire et que la justice pénale, le suivi pénal n'est pas forcément à la hauteur, j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, on ne donne pas un signe suffisamment fort pour ces gens qui vous agressent.
Mais je partage totalement le sentiment que vous exprimez. Aujourd'hui, c'est très simple d'agresser un élu local, un maire, un conseiller départemental, un conseiller régional, parce que, je le redis, nous sommes sur le terrain au quotidien, au contact des populations, et la réponse pénale qui est apportée, si c'est ce que vous voulez que je vous confirme, je considère qu'elle est trop légère, je considère que les sanctions ne sont pas assez lourdes, mais pire encore, puisque nous sommes dans la même ville. Ça veut dire que moi, celui qui m'agresse, s'il est traduit devant le tribunal et que le soir même il est ressorti, il sera de nouveau avec sa bande.
C'est ce que dit M. Bréau.
Exactement.
C'est ce que dit M. Bréau. Et effectivement, alors M. Bréau, visiblement, il s'attaque au business, nous sommes d'accord, hein, c'est ce qu'il dit, au business des délinquants et au business de la drogue. Et effectivement, comme il veut faire bouger les choses et comme il a été élu sur un programme de sécurité, ben, il entre avec des résistances, des gens qui ont bien compris qu'ils sont en difficulté avec le mandat de M. Bréau.
Majeure, c'est qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, nous n'avons pas assez de forces de police pour intervenir. Parce que moi, j'ai doublé les effectifs de police municipale à Valence dans le mandat précédent. Je suis passé de 90 à 160 caméras. J'ai mis le paquet. Et quand j'embauche un policier municipal, il passe 100% de son temps sur le terrain, pas comme la police nationale qui doit prendre les plaintes et suivre les procédures. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est d'avoir plus de police nationale, c'est d'avoir plus de procédures qui aboutissent et ça d'avoir une plus grande sévérité de la part de la justice. Je sais qu'il y a des consignes, des circulaires qui sont passées, mais je trouve qu'on est encore trop léger et ces condamnations doivent avoir valeur d'exemple. Pas parce que les élus, parce que j'ai lu ça, sont au-dessus des autres, simplement parce que nous représentons nos concitoyens et que si on accepte que les représentants des citoyens soient agressés de la sorte sans avoir de réaction forte, eh bien alors ce sont nos concitoyens qui seront désespérés demain. Déjà aujourd'hui, lorsqu'ils sont agressés, moi j'estime que souvent les condamnations ne sont pas assez lourdes.
On peut se rejoindre sur ce point, et c'est pourquoi je voulais vous poser la dernière question des peines planchées que Nicolas Sarkozy avait imaginées. Est-ce que vous êtes favorable pour un élu de la République, mais c'est vrai aussi pour les policiers, à partir du moment où vous prenez le risque de toucher un policier ou un élu de la République, il y a une peine planchée suffisamment dissuasive qui est mise en place, qui peut-être arrêtera ceux qui vous agressent régulièrement.
Bien entendu que j'y suis favorable. En réalité, c'est à chaque fois qu'on porte atteinte à un représentant de l'autorité que la sanction doit être plus lourde, parce que c'est l'autorité qu'on vise.
Ça Mais les magistrats n'en veulent pas. Hein. Parce que les magistrats, dans ces cas-là, et c'est ça tout le problème en France, c'est que les magistrats, ils veulent leur liberté d'interprétation. C'est pour ça qu'une politique pénale est compliquée à mettre en place en France, parce que les magistrats, ils n'en veulent pas des peines planchées. Elles ont d'ailleurs été mises en place. Elles n'ont jamais été appliquées.
Bien entendu, c'est au Parlement de prendre ça en main. Moi, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, Darmanin, s'exprimer à deux reprises sur le sujet, sur la responsabilité des parents, etc. Je ne désespère pas qu'avec le mouvement des élus locaux qui est en train de se manifester compte tenu des tensions que nous vivons régulièrement, eh bien, le gouvernement prenne conscience que le Parlement durcisse les règles. C'est au Parlement d'en décider. Et ensuite, la justice applique la loi.
Eh ben, merci Monsieur D'Aragon et pour avoir échangé avec Monsieur Bréau ce matin sur une autre antenne. Je trouve qu'il a beaucoup de courage et je m'inquiète pour le recrutement des futurs maires, parce que c'est un jeune maire, il a 35 ans sans doute, et d'aller au combat comme ça, au risque de sa vie, parce qu'on en est là aujourd'hui hein, en France pour certaines municipalités, je ne sais pas si pour en plus des revenus, disons-le, qui sont modestes, hein, lorsque vous êtes maire d'une ville comme celle de Bron, faut avoir un peu de courage ou être assez idéaliste pour croire encore à la politique et croire en la possibilité de changer des choses dans son pays.
On est bien d'accord.
Merci, monsieur D'Aragon. Il est 13h17, on va marquer une deuxième pause. Bon, monsieur Caronini, vous étiez où? Enfin, ah. Ça ne me regarde pas, mais vous n'étiez pas là hier. Monsieur Boris Pirédou était là.
Exactement.
On a une petite playlist de Sheila, grâce à cela.
Ah, j'ai échappé à ça. Peut-être. Je suis passé à côté
vous
de
avez
ça.
Vous échappé à ça.
Non, non, je voulais dire, je suis passé
ça,
à côté,
pas
malheureusement.
Ça, c'est très laid, ce que vous venez de dire. Ben, pour votre peine, on réécoutera un Sheila.
Ah,
aujourd'hui.
Super.
13h18, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je vous lis le tweet de Jérémy Bréau en fin d'après-midi, qu'il avait écrit hier. En fin d'après-midi, avec mon équipe, nous avons été victimes d'insultes, de menaces physiques et de jets de projectiles. Une honte. Je précise que les auteurs de ces dégradations n'ont pas été arrêtés. Ce n'est pas la première fois que le maire de Bron est menacé. Début janvier, déjà des tags dessinés sur un mur lui étaient directement adressés, le menaçant de décapitation. Quelques mois plus tôt, c'était des inscriptions à la craie qui évoquaient une déclaration de guerre. Une plainte doit être déposée ce matin et le maire de Bron entend bien continuer son action dans la ville, dit-il. Bonjour Jeanne.
Bonjour Pascal.
Vous habitez Vito en Côte d'Or. Et vous êtes adjointe au maire.
C'est ça.
Donc il y a beaucoup d'élus qui nous appellent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, je pense qu'il va falloir qu'effectivement le Parlement prenne des sanctions et vote une loi contre toutes ces personnes qui portent atteinte aux élus, mais aussi aux forces de l'ordre. Il ne faut pas les oublier. Je pense que l'autorité doit être mise en place. Et il y a à un moment donné, être maire, je pense que dans ces grandes villes, il faut vraiment être courageux. Surtout qui ne lâchent pas, qui continuent sincèrement ce qu'ils font justement pour l'insertion de nos jeunes. En plus, ils se battent pour eux et inversement, on leur caillasse leur voiture et on les insulte. Enfin, faut que ça s'arrête. Il faut absolument remettre de l'autorité pour cette République. Je pense que les citoyens attendent ça et. Et ces jeunes qui, à mon avis, si on leur enlève leurs droits civiques, je suis même pas sûr qu'ils aillent voter. Donc, je pense que ça ne les touchera pas plus que ça. Je pense qu'il faut taper fort, mais autrement.
Oui, mais alors, c'est quoi taper fort et c'est quoi autrement? Et la petite ville de Vito, hein, c'est 1073 habitants, c'est bien cela?
C'est ça.
En Côte d'Or. Je ne suis jamais allé à Vito, mais avec Internet aujourd'hui, on découvre très rapidement. Votre charmante commune.
Oui, mais ça va, nous, tout se passe
1000
bien.
1000 habitants, c'est tranquille, j'imagine.
Oui, c'est tranquille, tout le monde connaît tout le monde. Il arrive parfois que le ton monte un peu, mais ça reste toujours très, très, très facile à gérer. Mais être maire, ça devient compliqué, puisque les gens sont très exigeants, tout leur est dû, ils vous dérangent à n'importe quelle heure sans se dire que vous avez aussi un travail à côté. On fait le choix de se dire, eh ben voilà, on se met sur une liste, on veut être élu, on veut servir notre ville. Parfois, c'est compliqué et les gens ne se rendent pas non plus compte du travail qu'on peut, nous, avoir à faire.
Mais il n'y a pas les mêmes problèmes, évidemment, de délinquance
qui
agite des villes comme Bron. Jeanne, il y a Maurice qui est là et Maurice habite Bron. Donc, ça va être intéressant. C'est le premier témoignage d'un auditeur qui réside à Bron. Bonjour. Monsieur Maurice. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Et d'ailleurs, Bron, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est la ville de Karim Benzema quand même. Hein. C'est là où il a grandi.
Oui, c'est pas le meilleur fleuron.
Oh, bah, pourquoi vous dites ça? Karim Benzema, c'est quand même une belle image. C'est
oui,
un joueur de football qui a réussi.
Oui, admettons.
Bah, admettons, il est le meilleur avant-centre de l'histoire du football français. Et il joue au Real Madrid. C'est difficile quand même de faire mieux.
Et bah, alors justement. Donc, s'il est à Madrid, bon vent.
Bon, bah vous ne l'aimez pas beaucoup, manifestement, non. Karim Benzema. En revanche, vous habitez Bron. Et comment ça se passe à Bron?
Eh bien, ça ne se passe pas bien.
Pourquoi?
Eh bien, parce que, comme je l'ai dit en préambule lors de mon appel, on bénéficie, entre guillemets, de 5 maires précédents socialistes avec le laxisme dont ils sont coutumiers. Donc, on a une délinquance qui a fleuri au fil des années et qui se déclare complètement maintenant.
Mais depuis, c'est-à-dire que ces problèmes-là, ces problèmes d'insécurité, de délinquance et pourquoi pas de drogue, vous dites, ils existent depuis très longtemps parce que il y avait une politique municipale qui n'était pas efficace.
Absolument.
Mais ça veut dire quoi, une politique laxiste ?
Eh bien, c'est une politique qui ne veut pas prendre en compte les inconvénients que cette délinquance apporte aux citoyens.
Mais le maire n'est pas le seul, bien évidemment, parce que la réponse pénale, c'est pas le maire.
Oui, non mais d'accord. Bon, mais quand même, de toute façon, il y avait un électoralisme flagrant, et ma foi, mon avis, et c'est, maintenant tout le monde ne le partage pas forcément, hein, mais j'ai le plaisir d'avoir la parole, donc je m'exprime.
Alors, Jean-Jacques Kerran, qui était une figure du Parti Socialiste, a été maire de Bron de 1989 à 1997. Il avait démissionné, d'ailleurs. Après, c'était Georges Bernin, qui a été maire.
Oui.
C'est également une jeune femme qui s'appelait Annie Guillemot.
Oui.
Et Jean-Michel Longueval, je les cite, hein, puisque c'était effectivement des maires PS depuis de nombreuses années. Pour la première fois depuis longtemps, manifestement, c'est Jérémy Bréau, qui est un maire de droite, qui a pris le pouvoir à Bron.
Oui.
Non, mais qui a été élu, nous sommes d'accord, sur ce sujet de la sécurité et de la délinquance.
Oui, oui, il n'a pas caché son jeu et il a bien fait. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a été élu, je pense, parce que fondamentalement, les Brondillans sont plutôt ce que l'on a commune à dire, plutôt de droite.
Bon, vous habitez depuis 40 ans à Bron.
Oui, 42 même.
Bon, 42 ans. Vous trouvez donc que la ville est insécure aujourd'hui ?
Oui.
Bon, à titre personnel, par exemple, est-ce que ça s'est traduit dans votre quotidien par quelque chose ?
Oui, ben, je l'ai dit aussi, 17 cambriolages en 42 ans.
Ah oui, effectivement.
Bon, donc ça fait pas mal.
Oui, hein, ça, effectivement. 17 cambriolages, vous êtes en maison ou en appartement ?
Maison.
Bon, et toujours au même endroit ?
Oui.
Donc votre maison a été 17 fois cambriolée ?
Oui, on a essayé de vendre, c'est invendable.
Et c'est fait quoi ? Effectivement, si dites qu'elle a été cambriolée 17 fois, pardonnez-moi Maurice, je c'est pas drôle, bien évidemment, mais c'est pas la meilleure, évidemment, c'est pas la meilleure affiche de vente de dire, même Stéphane Plaza va avoir du mal à vendre votre maison si elle a été cambriolée. Mais pourquoi est-ce cambriolée vos voisins également ?
Oui.
Tout le monde est cambriolé chez vous régulièrement ?
Oui.
Bon, mais parce que vous êtes où précisément ?
Dans un quartier célébrissime. Je ne vais pas le dire parce que je ne voudrais pas qu'on me retrouve.
Oui.
Bon. Mais quand même, bon.
Mais qu'est-ce qu'ils viennent voler au bout de la 17e fois ?
N'importe quoi. Un appareil photo, des papillotes, bref.
Des papillotes ?
Et puis, parfois, rien du tout parce qu'on s'est protégé. Mais il y a quand même eu effraction avec tous les frais occasionnés.
Mais j'imagine, mais sur ces 17 fois, vous étiez présent ?
Plusieurs fois, oui.
Donc vous les aviez vus ?
Oui.
Donc là, j'imagine, c'est quand même un stress.
On sait à qui on a affaire.
Non, mais c'est un stress. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais on sait à qui on a affaire. Quand on voit quelqu'un.
Mais ils sont à visage découvert ?
Oui.
Donc ils entrent chez vous ?
Oui.
Bon, donc j'imagine pour vous c'est un stress.
Mais pourtant c'est vrai, et je suis sûr que si vous arriviez à interroger ou que les gens qui sont dans la même situation arrivent à se faire intercepter par vos lignes, ils auraient le même langage que moi. Hein.
Non mais j'entends bien, mais moi je cherche à comprendre et à visuellement voir comment ça s'est passé. Donc ils entrent, mais pour vous c'est un stress quand même très important de voir des cambrioleurs. Donc j'imagine qu'ils sont armés, armes blanches ou pas ?
Ah non, même pas, apparemment pas.
Bon, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous demandent de l'argent ?
Non, ça se passe pas comme ça. Lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a du monde, heureusement, ils rebroussent chemin.
Ah, d'accord.
Et bon, voilà.
Bon. Maurice, on va marquer une pause, mais vous allez rester avec nous.
Oui.
Et je crois que Laurent Tessier m'a dit quelque chose, mais malheureusement, je n'ai pas entendu ce qu'il m'a dit.
Il vous disait que notre auditeur suivant était Mehdi, qui était de Bron également.
Ah d'accord, voilà, Mehdi est de Bron également. Eh bien Maurice, restez avec nous, parce que c'est passionnant, et puis votre vie, quoi, c'est passionnant, oui, c'est passionnant, mais votre vie, c'est pas amusant, en tout cas. Et je comprends que vous ayez envie de vendre. La dernière fois que vous avez été cambriolé, c'était quand ?
Ça fait 2 ans et quelque chose.
Bon. À tout de suite.
Oui.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et nous évoquons évidemment le maire de Bron qui avait été menacé mercredi et même agressé verbalement et physiquement. Laurent Tessier.
Jérémy Bréau avait d'ailleurs co-signé en début de semaine une tribune dans le Figaro. Menacer un maire, c'est menacer la République. Nicolas D'Aragon est maire de Valence et co-signataire. Il lance une proposition pour répondre en partie à chaque délinquant. Il était l'invité des auditeurs à la parole.
Le sujet, c'est qu'il doit être sanctionné évidemment avec de la prison, avec une amende, avec des dommages et intérêts. Mais il doit être aussi déchu de ses droits civiques, tout simplement parce que s'en prendre aux représentants de la République, c'est nier la République. Et donc, c'est nécessairement se voir privé d'y participer pendant un certain temps.
La déchéance des droits civiques en cas de menace contre des élus, qu'en pensez-vous ? Eh bien, ces individus se moquent bien de leurs droits civiques. Lance Fred sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Votez, ils s'en moquent, ils ne respectent rien. J'y suis complètement favorable, rajoute Vincent, c'est un bon début. Après, il faut des condamnations beaucoup plus lourdes. Ça ne changera rien, répond Jacques à l'instant. Ces délinquants ne doivent pas être les premiers à se déplacer pour aller voter. Ça ne les refroidira pas, vous verrez.
Nous sommes avec Mehdi et Maurice va rester avec nous parce que Maurice habite Bron, mais Mehdi habite Bron également, c'est une génération différente. Bonjour Mehdi, vous avez 25 ans, vous êtes livreur à Bron, vous êtes né à Bron Mehdi ?
Oui, j'ai grandi à Bron, je suis né à l'étranger mais j'ai grandi à Bron.
Bon, quel est votre sentiment d'abord sur ce qui s'est passé hier et puis sur la situation aujourd'hui ?
Ce qui s'est passé hier personnellement, après moi en tant que jeune du quartier, je ne cautionne pas trop. Mais après, c'est dommageable tout ce que j'entends. Faut savoir, bon, après moi, je me cache pas, je suis quelqu'un qui est un fervent supporter de monsieur Longval et Annie Guillaumeau, hein, l'ancienne mairie.
Qui a été battu à 48-77, hein, c'était un score très serré. Et Jérémy Bréau a fait 51,22 en juin dernier.
C'est ça.
Donc c'est vraiment très, très serré, c'est quasiment du 50-50.
C'était quasiment du 50-50, bon, on va dire pour nous, parce que moi j'étais vraiment dans la course avec eux. Moi, il nous manquait quelques voix. Vous savez, dans le vote, il y a certains partis qui donnent des voix pour qu'un parti puisse passer. Mmh. Donc nous, il nous manquait un petit peu.
Vous aviez fait 42% au premier tour et Monsieur Bréau avait fait 35%.
Il nous manquait le parti, le PC.
Alors on va pas revenir sur l'élection, mais on a compris que c'était du 50-50. Voilà. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé hier.
Alors ce qui s'est passé hier, honnêtement, ben moi aussi ce matin en lisant les journaux, j'ai été surpris. Après moi, je suis pas du quartier de Paris-Ly, je suis de l'autre quartier, pareil qui est passé quartier du Terraillon. Moi je m'en cache pas, hein, vous inquiétez pas, entre guillemets tout le monde me connaît là-bas. C'est dommageable. Ça reste une minorité. Faut pas mettre après tous les jeunes de la ville dans le même sac.
Mais ça, on est d'accord, Mehdi. Voilà. Je veux dire, tout le monde sait que c'est une minorité. La question qu'on pose à chaque fois, c'est quelle sanction, quelle réponse pénale pour ces minorités ? Et on a le sentiment que la justice n'est pas assez ferme. C'est ça le sujet.
Il n'y en a pas. Moi, personnellement, en tant que jeune du quartier, je les ai vus, j'ai vu les caméras, j'ai vu le truc. Il n'y en a pas.
C'est-à-dire, il n'y en a pas.
Ils ont arrêté des jeunes suite à des émeutes.
Non, il n'y en a pas de quoi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y en a pas.
Pour moi, personnellement, en tant que jeune, je ne trouve pas la solution pour d'autres jeunes. J'arrive pas à savoir qu'est-ce que la justice peut faire pour les sanctionner. Même nous, et on ne sait pas. Parce que certaines personnes vont dire ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont rien contre eux ou qu'ils soient déchus de leurs droits civiques.
Non, ça, on sait bien que ce n'est pas suffisant.
Ça va jamais arriver. Par contre, sur le fait de... je mets juste une petite parenthèse. De Maurice, c'est ça l'auditeur ?
Oui, Maurice, il vous écoute d'ailleurs. Il va pouvoir échanger avec vous.
Bonjour Maurice.
Bonjour.
Sur ce qui s'est passé, bon après je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous, 17 fois cambriolé, moi je suis un jeune de Bron, je suis un jeune des quartiers, je me suis déjà fait cambrioler, ça ne va pas être des jeunes de chez nous. Donc parfois ça l'est, parfois c'est d'autres personnes, d'après ça reste sans faire d'amalgame de pays de l'Est. Mais tout le monde se fait cambrioler, entre guillemets, on est même sécurisé avec un chien, des caméras, un garde du corps dedans...
Vous aussi, Mehdi, vous avez été cambriolé ?
Moi, je me suis fait cambrioler.
Mais combien de fois ?
Moi, je me suis fait cambrioler 2 fois et mes voisins 4 fois.
Enfin, c'est... Et vous habitez en maison ou en appartement ?
Moi, maintenant, je suis en maison, avant d'être en appartement. Mais maintenant, en maison, je vous le dis, on est des jeunes du quartier. Mon voisin, qui est un habitant du quartier, a réussi à se faire cambrioler. Mais on savait qu'il y avait un trafic de personnes de pays d'Est. Et même le commissariat de la ville qui nous l'a dit, il y avait un certain nombre de personnes qui passaient de maison en maison et identifiées comme personnes de pays de l'Est, malheureusement. Voilà. Mais après, voilà. Comme je dis, en fait, moi, pour moi, ce maire, bon, il a été élu maire, il a joué sur la crainte des habitants. D'accord. Bron devient.
La crainte, c'est un peu légitime. Quand t'as été cambriolé 17 fois, t'as peut-être envie de changer de municipalité. Tu te dis avec le nouveau maire, ça sera peut-être plus sécure.
En fait, après, tout à l'heure, j'entendais que vous parliez de la délinquance et d'une mairie un peu laxiste.
Ça, c'est Maurice qui disait que depuis 20 ans, alors Maurice peut vous répondre, il trouvait que la politique municipale n'était pas assez ferme.
Alors, police municipale.
La politique municipale, pardonnez-moi. La politique municipale, excusez-moi.
Moi, je peux vous le dire, moi qui les ai côtoyés durant un très 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 long moment, même si je suis jeune, je les ai côtoyés depuis tout jeune. Quand il y avait des actes à faire dans certains quartiers ou dans certains endroits de la ville, que ce soit au centre ou peu importe où dans la ville, ils étaient là. Il y avait une action. Mmh. Il y avait une politique d'action. Après, le maire est arrivé, enfin Jérémy Bréau est arrivé, il était second, il était adjoint au maire de la ville de Saint-Priest. Mmh. Donc quand il est venu sur Bron, il a vu que peut-être il y avait un peu plus de laxisme, qu'on laissait un peu faire les jeunes, d'accord ? Ça, on va pas se le cacher, il y en avait un petit peu. Il n'y en avait pas tout le temps pendant 20 ans, il y en avait un petit peu. Mmh.
Bon, voilà. Maurice après, vous répond, Maurice voilà. vous répond et peut échanger avec vous. Maurice.
Ouais. Oh, bah écoutez, oui, je suis d'accord avec ce que mon interlocuteur est en train de dire. Ça n'empêche pas que j'espère que le climat s'améliorera. Je souhaite bon courage au nouveau maire et que la situation s'arrange.
Bon, moi, j'espère surtout pour vous que ça peut s'arranger, parce que vous avez quand même un certain âge, Maurice, vous avez 75 ans. C'est pas amusant pour vous de vous faire cambrioler régulièrement. Vous dites que votre maison est invendable, ce qui est intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de vente dans le quartier dans lequel vous êtes.
J'ai pas réessayé, là. Mais enfin, au moment où j'ai essayé, c'était pas... Ou alors, il fallait la donner, donc c'est pas la peine.
Je vous remercie en tout cas Maurice, comme je remercie Mehdi, deux témoignages de Bron. Et puis on va être avec Marc dans une seconde, peut-être après une nouvelle page de publicité. Il y a d'autres sujets, si vous le souhaitez. Il y a le Covid, le reconfinement. Est-ce qu'il faut des reconfinements locaux ? Il y a le 15 de France qui ne jouera pas Français-Écosse. Je disais tout à l'heure, je me suis peut-être avancé, j'ai dit c'est une bonne nouvelle, Grégory, parce qu'effectivement, on était privé de nos meilleurs joueurs. Et comme on est en passe de pouvoir gagner le tournoi des 6 Nations, donc on peut peut-être appeler Jean-Michel Rascol d'ailleurs. Est-ce qu'il est d'accord avec moi, Jean-Michel ? Est-ce que c'est une bonne chose de ne pas jouer France-Écosse ? Ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à nous appeler, et puis à tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le mal de pouce. C'est une douleur, effectivement, on ne s'en rend pas compte, et l'ami Cibès en parlera demain matin.
Ah d'accord, je veux dire, pourquoi vous me parlez
de ce n'avez pas écouté ce que disait Michel à l'instant, la bande-annonce qui
fort bien,
était il y a quelques secondes. Déjà arrivé ? Mais le mal de pouce, non mais c'est vrai que ça peut faire très très mal.
Pourtant vous êtes comme ça.
Je suis comme ça.
C'est pas très radieux.
Ah, jeu de mots. Bon, on va être avec Marc dans une seconde. Laurent Tessier, dites-nous tout.
Et nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Après le littoral des Alpes-Maritimes, Dunkerque, le Premier ministre Jean Castex annoncera-t-il ce soir à 18h un confinement local dans d'autres départements ? Stéphane Troussel, le président socialiste du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, était l'invité ce matin de RTL. Il demande plus de temps.
Moi, je ne veux pas qu'on fonce tête baissée vers une solution radicale dont je connais les dégâts économiques et sociaux sans avoir tout tenté d'ici là. Tout tenter, c'est quoi ? C'est 1. d'abord dire et faire la transparence la plus complète sur la gravité de la situation pour que chacun redouble d'efforts dans les jours qui viennent. Tout tenter, c'est aussi prendre un certain nombre de mesures rapides, alors que dans 48 heures, il nous reste 48 heures pour préparer la rentrée scolaire de lundi.
La France a enregistré hier plus de 31 500 nouveaux cas de Covid, un chiffre plus haut depuis la mi-novembre. La situation épidémique est très préoccupante dans une dizaine de départements, alerté hier le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Alors que doit décider l'exécutif face aux variants du Covid-19? Oui au confinement local pour Bernard sur nos réseaux sociaux. Prenez des décisions au niveau des départements, mais pas question d'être confiné le week-end pour Aurélie, ça commence à bien faire. Un an avec la Covid-19, je n'en peux plus.
Merci, à tout à l'heure. Marc est avec nous, qui est maire adjoint. Bonjour Marc.
Bonjour Pascal.
C'est intéressant parce que, effectivement, aucun maire ne se ressemble et aucun incident également ne se ressemble. Vous êtes en Gironde, dans la ville de
Parampuire.
Comment on dit Parampuire?
Voilà, tout à fait.
Bon, c'est une petite commune.
9000 habitants qui fait partie de la métropole de Bordeaux.
D'accord. Bon, quand vous avez entendu les différents maires s'exprimer, est-ce que vous êtes reconnu?
Alors, tout à fait, je me reconnais, même si sur notre commune, bon, nous n'avons pas la délinquance qu'il peut y avoir dans d'autres communes beaucoup plus importantes. Je dirais que nous avons la délinquance moyenne, voire en dessous de la moyenne. On s'est doté d'ailleurs de caméras, on a embauché deux policiers municipaux, etc. Mais je crois que, si on revient au sujet principal, ce qui fait le plus de mal, ce sont les réseaux sociaux.
Ah bon?
Car, les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est insultes, diffamations, je dirais mensonges, contre-vérité. C'est vraiment, moi je peux vous le dire puisque je l'ai même subi, notre maire l'a subi, puisque notre maire a même déposé plainte. On en est arrivé là pour des insultes.
Et ensuite, vous savez, il y a une solution hein, pour les réseaux sociaux. C'est que tout le monde se retire. C'est-à-dire,
oui,
si tous les gens, tous les hommes politiques, tous les journalistes décident et toutes les institutions décident de se retirer immédiatement de Twitter, c'est fini.
Alors, je peux vous dire, moi je n'ai pas Twitter, je n'interviens jamais sur les réseaux sociaux, je suis très clair, je lis ce qu'il y a, mais bon, c'est des insultes, pour moi, c'est déjà sur des communes comme la nôtre, hein, je parle pas des autres communes, mais sur des communes comme la nôtre, ce sont les réseaux sociaux qui font le plus mal.
Mais il faut pas les lire.
Parce que, moi, je vous dis, ça ne me touche pas, hein, mais quand quand même, on traite, excusez-moi, je vais dire le mot, votre mère de salope, sur les réseaux sociaux. Ça fait mal, même si vous ne le lisez pas, vous savez, on vous le rapporte. Hein. Oh là là, c'est...
Ah oui, vous, par exemple, ça vous touche, ça?
Qu'on insulte le premier magistrat de la commune, oui, ça me touche.
C'est vrai que les journalistes ont mis aussi...
Tout comme si on insulte un adjoint, un conseiller municipal, un fonctionnaire de police, nous sommes des représentants de l'État. Et ce qu'il faut dire aussi, et c'est ce qui a été dit, c'est que nous sommes au quotidien au contact des citoyens. Et si vous voulez, aujourd'hui, on a créé des millefeuilles, hein, je ne les conteste pas. Il y a la mairie, enfin la commune, il y a les communautés de communes, les métropoles, etc. Et comme les citoyens ne connaissent pas finalement ce que chacun fait à son niveau, on rapporte tout contre le maire. Et nous, quand on dit, ben oui, mais vous voyez, c'est pas de notre compétence, c'est la compétence du département ou de la métropole. Oui, bien sûr, vous balancez ça sur les autres, comme ça vous êtes tranquille, etc. Et c'est comme ça que les tensions montent, que les insultes viennent, etc. C'est vous voulez faire appliquer. Moi, je suis au sport. Si on a obligé nous les masques, donc puisque les jeunes doivent avoir le masque des vestiaires jusqu'au stade, etc. Donc on a demandé à ce que les parents qui étaient là portent le masque. Vous allez leur dire, de suite, on vous remballe. Et je ne pense pas, pour en revenir au niveau de la déchéance, que ça soit la déchéance qui va y faire quelque chose.
Là-dessus, on est tous d'accord.
Alors là, franchement, c'est...
Là-dessus, on est d'accord.
Non, non.
Écoutez, c'est pas très réjouissant ce que vous nous dites, mais cette émission ne l'est pas beaucoup. Les témoignages sont rudes, forcément. Mais qu'est-ce qui... vous motive encore alors avoir une fonction d'élu, Marc?
Je vais pas raconter ma vie, mais j'étais fonctionnaire de police et j'ai été représentant syndical. J'ai été dans des associations aussi d'utilité publique, etc. Et lorsque Madame le maire est venue me voir, je me suis engagé parce que je pense que l'engagement citoyen, tout Français devrait l'avoir.
Bravo. Parce que je trouve que vous avez du courage, parce qu'effectivement, en plus, c'est pas pour l'argent que vous faites ça, nous sommes d'accord, Marc.
Là, franchement, l'indemnité... si c'était pour l'argent, moi je ne cache pas l'indemnité, de toute façon, en tant qu'adjoint, j'ai 600 euros par mois. Voilà, et je suis tous les jours à la mairie, le soir il y a des réunions, etc.
Il y a des satisfactions quand même, vous faites avancer quelques dossiers, vous êtes utile en fait.
Vous savez, si on arrive à rendre service, ne serait-ce que déjà une personne, pour moi c'est déjà gagné.
Je suis d'accord, je veux être utile. Tiens, comme on n'a pas beaucoup de chansons, cette chanson elle est superbe de Julien Clerc, « Je veux être utile ». Et ce sentiment que vous avez, Marc, d'être utile à vos concitoyens et dans la société, vous renforce une image positive de vous-même.
Écoutez, je vous remercie, mais très honnêtement, je pense que... tout le monde devrait être comme ça. Et heureusement d'ailleurs que par les temps qui courent, nous avons énormément de bénévoles qui aident les sans-abri, les étudiants en difficulté, etc. On est quand même assez nombreux à se battre pour ça. Et tant mieux.
Eh bien écoutez, bravo. Et c'est sympa de vous écouter. Merci vraiment, Marc. Merci.
Mais de rien.
Vous connaissez cette chanson, « Je veux être utile ».
Oui, oui, tout à fait.
Julien Clerc.
Me disait des Chiliens, bras ouverts, poings serrés.
Ça, c'est le couplet.
Comme une langue ancienne.
Vous chantez pas ?
Non, je ne chante plus depuis que vous n'étiez pas là hier et avant-hier.
Quel dommage.
À vivre et à rêver.
Je veux être utile à vivre et à rêver.
Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé.
Et voilà. Vous savez qu'il n'y a qu'une chose, paraît-il, qui rend heureux. Vous savez quoi ?
L'amour ?
Non. L'estime de soi. C'est la seule chose, paraît-il, qui rend heureux.
C'est une forme d'amour ? S'aimer,
non ? L'estime de soi. Donc, quand on fait des choses bien, quand on est utile, bien, ça renforce l'estime de soi. Vous, par exemple, vous êtes utile.
Et vous êtes heureux, vous ?
Je vous ai déjà répondu à cette question, le général de Gaulle. Je vous ai répondu ça une fois. On a demandé un jour au général de Gaulle, vous êtes heureux, mon général ? Et il aurait répondu, vous me prenez pour un con ? C'est le général de Gaulle. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bon, on va changer de sujet, puisque vous le savez, Jean Castex va parler ce soir. Et Olivier Véran, hier, effectivement, a été assez alarmiste, disons-le, après son déplacement à Dunkerque. Alors, Guillaume est avec nous. Bonjour, Guillaume, vous avez 21 ans. Je rappelle qu'il y a plus de patients en réanimation depuis hier. Il y a surtout plus de cas confirmé en 24 heures, 31 519 cas. Alors c'est sûr que ce chiffre est toujours spectaculaire, mais sur ces personnes contaminées, combien développeront d'une manière grave la maladie ? C'est souvent une question aussi qui serait intéressante de voir. Et évidemment, nous n'avons que ce chiffre brut, 31 519 cas confirmés hier. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Bonjour. Alors, que voulez-vous nous dire, Guillaume ? Vous êtes en Espagne ? Vous êtes à La Corogne ?
Exactement. Je suis étudiant Erasmus à La Corogne, en Galice. Et voilà, je souhaitais vous faire part de quelques informations qui me semblent importantes.
Eh bien, allez-y, on vous écoute avec intérêt.
Alors, donc, tout d'abord, comme vous le savez peut-être, ici en Espagne, ça fonctionne déjà, en fait, par communauté autonome. C'est-à-dire que les restrictions ne sont pas les mêmes selon les régions. Donc, par exemple, moi, je suis en Galice. Donc, tous les bars et restaurants sont déjà fermés. Et le couvre-feu est à 22 heures. Et il se trouve que ce week-end dernier, j'étais à Madrid. Et en fait, tous les bars sont ouverts. Les restos sont ouverts aussi, que ce soit à l'intérieur ou en extérieur. Les musées aussi sont ouverts et le couvre-feu est à 23 heures. Voilà, je souhaitais comparer déjà entre deux régions comme les restrictions peuvent changer.
Mais vous connaissez le taux d'incidence, parce qu'on est familiarisé aujourd'hui, on sait qu'au-delà de 50, le taux d'incidence, c'est le nombre de contaminations pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence à Paris, aujourd'hui, il est de 300. Le taux d'incidence au-delà la cote d'alerte, c'est 250. Et donc, Paris est au-dessus. Donc, est-ce que vous connaissez la Corogne et Madrid ?
Alors, donc en Galice, il n'y a que 7000 cas en fait actifs dans la région.
Par jour ?
Donc, ce qui fait que plus... Non, pas du tout. 7000 cas dans la région.
Actifs. En tout ?
Oui, en tout, exactement.
Vous êtes sûr que c'est aussi faible que ça ?
Mais c'est très faible en Galice. C'est pour ça que les,
tout est fermé.
Les restrictions en fait changent. Oui. Mmh. Et c'est pour ça que les restrictions vont changer en fait ce vendredi. En fait, on a connu un pic à 26 000 cas le 22 janvier. Mmh. Et donc depuis, ça a été canalisé et les cas sont descendus, ont descendu à la barre des 1000. Donc c'est pour ça que les restrictions vont changer et que les bars vont rouvrir ce vendredi et que les restrictions vont aussi changer.
Et vous revenez, alors vous pouvez revenir en France régulièrement ?
Alors, moi, je suis revenu pour les fêtes de fin d'année, pour voir ma famille. Mmh. Mais en soi, moi, je suis étudiant Erasmus, hein, donc j'ai mes cours ici qui sont en distanciel. Et à partir du 1er mars, redeviendront en présentiel.
Ben merci, Guillaume, de ce témoignage en direct donc, de l'Espagne. C'est toujours intéressant d'avoir quelques
merci
avis.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Tiffany est là. Bonjour, Tiffany. Vous êtes aide-soignante en réanimation. Donc, vous êtes une soignante. Et c'est intéressant,
oui, bonjour,
bonjour, d'avoir évidemment votre avis. Ce soir, Jean Castex va parler. Qu'est-ce que vous attendez de lui ?
Ouf Bah écoutez, je pense que pour moi, les mesures, elles auraient dû être prises avant. On attend toujours le dernier moment pour agir. C'était peut-être le moment au mois de janvier, peut-être de faire un confinement généralisé, peut-être une bonne fois pour toutes, pour éviter la circulation du variant, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le variant circule partout. Nous, on est en baisse actuellement. Enfin, on a eu beaucoup d'hospitalisés au mois de janvier. C'est assez calmé, mais il semblerait que ça reparte avec les variants. Donc, peut-être que dans les 15 jours, en plus, il y a eu les vacances, etc. Donc, dans 15 jours, ça risquerait de recommencer. Donc,
plutôt pour une solution dure.
Aujourd'hui, je ne sais pas honnêtement, parce que si il y avait une solution dure, elle aurait peut-être dû être faite une bonne fois pour toutes. Parce que là, on tourne en rond, on confine, on confine pas, on fait un couvre-feu à 18h. Pour moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens, un couvre-feu à 18h. On va confiner localement, certes, mais... ça ne va peut-être pas empêcher qu'après les autres régions qui ne sont pas confinées localement, le variant est là quand même, donc ça va quand même continuer. Mmh. Je ne sais pas où est la solution, mais ça devient très long pour tout le monde. Économiquement, c'est catastrophique. Socialement, c'est catastrophique. Moi, je me mets à la place de tous ces bars, tous ces restos, tous ces gens... nous, c'est dur aussi depuis un an, parce qu'on n'en voit pas le bout. Mais je suis solidaire de toutes ces personnes qui sont en souffrance face à ce virus. Et je me dis, mais quelle est la solution ? Je ne sais pas.
La solution, c'est la vaccination, on le sait bien. Mais le problème de la vaccination, c'est que en France et toute l'Union européenne, c'est globalement un fiasco, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on est autour de 4%, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie. En gros, il y a 4% de la population qui est vaccinée. Le Royaume-Uni, c'est terrible, parce que le Royaume-Uni a fait le Brexit. Et le Royaume-Uni, vous avez 26% de la population qui est vaccinée. Si on voulait tuer l'Union européenne, on ne s'y prendrait pas autrement. Pour des raisons X ou Y, on a été incapable, pour la France et pour l'Allemagne, pour tous les pays de l'Union européenne, à faire venir des vaccins en masse. Les États-Unis, 14% de la population est vaccinée. Je ne parle même pas d'Israël, 51% de la population est vaccinée. Et nous, on est à la traîne. Donc, c'est ça le problème. Parce que là où le vaccin est passé, si j'ose dire, l'épidémie baisse. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, ça baisse, aux États-Unis, ça baisse, et en Israël, évidemment, ça baisse fortement. Après des confinements, d'ailleurs, en Israël. Après 3 confinements. Merci Tiffany,
merci
beaucoup, merci, on va continuer cette discussion, on sent un peu de fatigue chez nos auditeurs, c'est bien normal, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h.
En attendant Jean Castex, ce soir, ce sera notre prochaine demi-heure avec les auditeurs. Mais pour le moment, le rappel des titres, Benjamin Boucriche.
Bonjour à tous. Le géant de l'assurance AXA, condamné par la justice à indemniser un restaurateur pour la toute première fois. Le propriétaire de l'Espigoulier, un restaurant du Vieux-Port à Marseille, va donc recevoir de l'argent pour compenser la fermeture administrative de son établissement. Cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pourrait bien se démultiplier. 15 000 autres restaurateurs sont concernés par ce type de contrat vendu par AXA. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour identifier les auteurs d'une fuite massive de données de santé. Les informations d'un demi-million de patients se sont retrouvées en accès libre sur Internet après avoir été piratées. Le match de rugby entre la France et l'Écosse prévu ce dimanche est reporté. L'organisation du tournoi des Six Nations prend cette décision ce midi après une avalanche de cas de Covid chez les Bleus. Ce matin, un 16e membre du groupe a été testé positif et ce en moins de 2 semaines. Si vous avez entre 5 et 8 millions d'euros qui traînent, sachez qu'un tableau du peintre Vincent Van Gogh sera mis en vente le 25 mars. C'est dans très précisément un mois. Intitulé « Scène de rue à Montmartre », il nous montre ce quartier parisien en 1887, à l'époque où il y avait encore un moulin et de l'herbe à la place du bitume. C'est l'un des très rares tableaux du peintre néerlandais appartenant à une collection privée. La météo, des températures bien au-dessus des normales de saison cet après-midi. Prévoyez 10 degrés à Cherbourg, 13 à Montpellier-La Rochelle, 14 à Marseille, 15 à Lille, 17 de la Bourgogne à l'Alsace et jusqu'à 19 degrés à Lyon. Côté ciel, le soleil sera dégagé sur tout l'est du pays, quelques nuages dans le nord-ouest et de la pluie sur la Normandie et le nord. Les courses, elles viennent de se terminer à Vincennes il y a quelques secondes. Voici le résultat. Le 8, le 2, le 6... le 1 et le 4. Vous écoutez RTL, il est 14h02, tout de suite. On retrouve la suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci à 14h02, merci beaucoup Benjamin.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Je rappelle que ce soir Jean Castex va parler, il n'avait pas parlé la semaine dernière. Quand il parle, évidemment, c'est qu'il y a des choses à annoncer. Évidemment, il n'y aura pas de confinement général, mais il y aura peut-être des mesures qui seront prises, des mesures territoriales. Et puis, il y aura un climat, une couleur qui sera donnée par le Premier ministre. Et après les interventions hier de Olivier Véran, on imagine que M. Castex sera sans doute sur cette ligne, disons assez alarmiste, pour ne pas dire alarmiste. Aurélien nous attend, bonjour.
Oui, bonjour.
Aurélien, vous habitez Besançon.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Et vous êtes livreur installateur.
Voilà, donc dans le milieu médical, et bon, c'est vrai que comme tout le monde, hein, en France, c'est indéniable, bon, bah, y a eu le virus, mais il y a un moment donné, je pense qu'il faut qu'on pense à vivre, à reprendre notre vie normale. Moi, je suis confronté à la détresse tous les jours. À la télé, aux médias, on n'en parle pas, mais il y a énormément de gens
qui suicident. On parle quand même de la détresse, on en parle.
Voilà, ouais, mais le nombre de gens qui ne peuvent pas se faire opérer et puis qui décèdent, le nombre de gens qui décèdent par an de cancer, on ne confine pas un pays. À l'heure actuelle, 71 000 personnes décèdent dues au tabac, on ne confine pas un pays. Je pense que malheureusement, on est en train de tout mélanger et l'effet médiatique a pris une proportion énorme. Et je pense que dans la tête des Français, voilà quoi, tout est confus. Après, moi, c'est mon point de vue personnel. Je pense que reconfiner, je pense pas que c'est la solution, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait quand même une évolution qui était là. Je pense que oui, bah, il faut garder les gestes barrières, mais je pense qu'il faut quand même laisser les gens retravailler, parce que sans travail, excusez-moi mon expression, on crève. Et je pense que les Français, il faut qu'ils se réveillent.
Ça veut dire quoi que les Français se réveillent? Vous trouvez qu'ils sont résilients et qu'ils acceptent trop facilement?
Voilà. Je dirais, bon, c'est pas méchant, mais en 2018, quand il y avait le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il fallait qu'on soit tous solidaires, puis qu'on dise stop. Parce qu'il y a un moment donné, la planche à billets, là, elle déroule. Hein. On a des aides, il y a des aides. Hein. Mais il y a un moment donné, l'argent là qui est distribué, eh ben, il faudra bien le récupérer. Et qui c'est qui va être encore, excusez-moi mon expression, mais au pied du mur, ben, ça va être encore les Français. C'est tout ça. Et on aurait dû écouter comme le professeur Raoult ou Perron, eux, c'est des infectiologues. Mais on a privilégié les médias, et les médias, c'est pas le messie.
Je sais pas ce que ça veut dire, on a privilégié les médias, ça veut dire quoi? C'est pas les médias qui...
Le problème, c'est que les médias, on en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, et puis il y a des médecins...
Ils ont fait surtout, ils ont parlé autant de Raoult que les autres, mais...
Oui, mais bon, je pense que, voilà, Raoult, comme tout comme Perron, je pense que c'est des personnes, c'est des infectiologues quand même qui est reconnu mondialement, et voilà, ils dérangeaient pour certaines personnes.
Je ne veux pas rentrer dans une analyse complotiste ou paranoïaque, ils ne dérangent pas, ils ont un avis différent.
C'est pas être complotiste, c'est être réaliste, parce que je pense qu'il y a des gens maintenant qui sont en train d'ouvrir les yeux que malheureusement, il y a de l'argent là-dessous. C'est tout. Et je pense que
Je suis pas sûr. Pour tout dire, je te fais pas de procès à ceux qui prennent ces décisions, qu'ils soient liés à des intérêts. Je pense que
Les restaurateurs, c'est ont été eux les pauvres. Mais vous imaginez, ça fait plus d'un an qu'ils ont aucune ressource. Ok, ils ont des aides, mais les aides, ça fait pas tout non plus. Puis on a bien vu que c'était pas forcément non plus à cause des restaurateurs. Ils sont privés de quoi, ces pauvres gens? Vous vous rendez compte qu'il y en a qui vendent tout? Moi, je connais des gens qui ont vendu leur maison et qui vivent dans leur restaurant en attendant d'une suite favorable. Et à un moment donné, je pense que voilà, il faut bien recaler les billes et puis éviter de broyer du noir, parce que là, on ressasse. Et je pense que les Français, ils ont...
Non, mais c'est vrai que j'écoutais Olivier Véran hier. Il y a une forme de... C'est toujours délicat de le dire comme ça. Il faut être mesuré.
Oui,
mais
il
est assez alarmiste. Voilà. Il pourrait choisir d'autres mots. Donc, voilà.
Et puis il y a les variants aussi, ils jouent sur les mots, hein. Les variants si, les variants ça.
Ils jouent pas sur les mots, c'est des variants. Si c'est des variants, c'est un variant.
Un virus mute, et les virus muteront toujours. Mais après, ils vont me dire quoi, qu'il y a un variant qui vient de l'Arctique.
Savez ce que c'est que ça, c'est le permafrost. Là, ça ne rigole pas. Ça, c'est des virus qui ont tué des mammouths. Ça, je vous dis que si ceux-là, ils sortent de la glace, ça va pas être simple, je vous le dis. C'est pas...
Vous voyez ce que je veux dire, c'est comme pour les mariages. Les gens veulent se marier. Ils n'ont plus de ça, ils n'ont plus rien. C'est un investissement personnel et financier. On peut garder les gestes barrières, on peut avoir un masque, ça c'est primordial, mais je pense que c'est pas... En bloquant, je pense qu'on rentre plus dans la frustration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi.
J'entends bien, Aurélien.
Pour revivre, quoi.
C'est un joli prénom, Aurélien.
Merci beaucoup,
Aurélien.
Merci à vous, en tout cas. Courage à tous les Français.
Écoutez, merci pour vos mots. Non, mais c'est vrai que...
Merci. Puis grosse pensée aux restaurateurs, parce que c'est comme les agriculteurs, sans eux, on ne vit pas. Donc, soyons solidaires, et puis pensons à nos restaurateurs, et puis voilà.
Je suis d'accord avec vous.
Il faut être solidaire, les Français.
Je suis d'accord. Alors, je m'amusais avec le permafrost, mais vous savez ce que c'est que le permafrost, hein ? C'est un terme géologique qui désigne un sol dont la température se maintient en dessous de 0 degré pendant plus de 2 ans consécutifs. Et effectivement, il y a des endroits où on est en train de découvrir des virus qui seraient là depuis des milliers d'années, paraît-il. Alors, je m'amusais à dire que c'était les virus qui tuaient les mammouths, mais si avec le réchauffement climatique, si c'est période-là, cette surface-là fond, vous allez découvrir des virus qui peuvent ressortir, c'est pas drôle du tout.
Vous trouvez que c'était pas assez anxiogène ?
Mais c'est pas drôle du tout. Mais il y a toute une littérature là-dessus, sur les virus du permafrost. Des virus qui ont des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Et là, c'est une autre affaire. Mais nous n'en sommes pas là. 14h08.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous allons prendre un confineur, parce que nous n'en avons pas eu depuis le début de l'émission. Franck, bonjour Franck, vous êtes lyonnais et vous êtes artisan.
Bonjour Pascal.
Donc vous êtes sur une position dure, il faut confiner la France.
Pascal, je vous explique ma situation. Moi, je suis artisan cordonnier. Je fais partie des métiers où les gens, ils viennent nous voir en général après le travail. Quand ils ont terminé leur travail, ils passent faire une clé ou ils passent chercher leurs chaussures ou poser leurs chaussures, parce que le matin, ils n'ont pas le temps. Entre midi et deux, ils n'ont pas le temps. Là, avec le couvre-feu à 18h, les gens, ils terminent leur travail à 16h30, 17h, ils rentrent vite chez eux. Ou ils vont vite faire une course au supermarché du coin, ils rentrent chez eux et ils ne bougent plus. Donc nous, moi personnellement, mais je ne suis pas le seul, j'ai parlé avec des collègues, on est à moins 40, moins 45% depuis le couvre-feu à 18h, on n'était pas du tout touché quand il était à 20h, mais depuis qu'il est à 18h, c'est une catastrophe. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. C'est-à-dire que on fait des journées où on n'a pas du tout de clients. C'est une catastrophe. Je ne perds pas assez de chiffres pour pouvoir demander l'aide, mais comme je n'ai pas une grosse activité, j'en perds suffisamment pour que ça mette dans le rouge. Et à un moment donné, on voit les chiffres qui ne sont pas bons. Okay, on voit les variants qui sont là. Les épidémiologistes ne s'étaient pas trompés. Ils avaient annoncé fin février, début mars. Malheureusement, ils sont là. À un moment donné, soit on confine et on dit aux gens, on tient compte de vos difficultés, on confine, mais on ne fait pas une demi-mesure avec un couvre-feu le week-end ou avec un confinement le week-end ou un couvre-feu à 18h. Parce qu'ils sont en train de nous tuer, Pascal. Ils sont en train de nous tuer petit à petit, à petit peu. Et je vais vous dire autre chose. On a l'impression que M. le maire, okay, pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, il tient M. Macron, pour qui j'ai beaucoup aussi de respect, il le tient par les cordons de la bourse.
Ah non, parce que Bruno Le Maire, effectivement, lui, il est plutôt favorable à l'ouverture, et vous avez raison.
Il le tient par les bourses, si je peux me permettre.
Oui, j'entends bien ce que vous voulez dire, mais Emmanuel Macron aussi, il se rend compte que économiquement, socialement, mais aussi psychologiquement...
Pascal,
c'est impossible,
mais...
nous dit-on. Les violences conjugales explosent, les violences sur les enfants explosent, la situation des étudiants explose. Moi, je veux bien qu'on reconfine, mais vous avez une France qui est déjà à cran, qui est au bord de la crise de nerfs.
Pascal, tout ce que vous me dites, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais il faut voir l'autre côté. Il faut voir que...
Mais pourquoi vous ne voulez pas tout rouvrir? Vous pourriez aller au bout d'une logique en disant « rouvrons tout ».
Mais parce que les gens ne viendront pas.
Ah, ils viendront pas si on rouvre.
Ah non, les gens ils viendront pas. Non, moi je peux vous dire.
Si on met le couvre-feu à 20h, ils viendront pas.
Ah, couvre-feu à 20h, c'est pas pareil. Couvre-feu à 20h, l'activité elle va pouvoir reprendre. Mais couvre-feu à 20h, malheureusement, ça risque de pas suffire pour endiguer. Comme on a été mauvais sur les masques, on a été mauvais sur à peu près tout, sur le gel hydroalcoolique, on est extrêmement mauvais sur les vaccins.
Toute l'Europe est mauvaise, je l'ai dit, moi j'ai les chiffres sous les yeux, toute l'Europe est logée à la même enseigne. L'Union européenne, plus exactement, pas toute l'Europe, l'Union européenne.
Mais Pascal, à long terme, vous comprenez, ça peut durer 8 mois. Hein.
Bien sûr.
Au rythme où on va au niveau de la vaccination,
bien sûr,
ça peut durer 8 mois.
Ah non, et ça va être terrible parce que le Royaume-Uni a un calendrier. Le 17 juin, tout est fini.
Bien sûr.
Tout est fini le 17 juin.
Mais
le 15 mai, on rouvre les restaurants parce qu'effectivement, tout le monde sera vacciné.
Bien sûr, mais Pascal, je vais vous dire une chose. C'est pire de nous laisser mourir un petit peu comme ça que de faire un confinement fort pendant un mois et demi, deux mois, en disant, pendant ces deux mois, on met le paquet, on vaccine à mort, à mort, à mort. Quitte à faire une seule injection, comme apparemment, il y a certains vaccins qui sont efficaces, qui sont relativement efficaces, une seule injection... et à décaler la deuxième, quitte à faire ça pour essayer quand même de vacciner un maximum de personnes, quitte à faire une petite entorse au protocole et à faire ça, eh ben, faisons-le, confinons, vaccinons, et derrière, on aura des perspectives. Mais là, je vous assure, ils sont en train de nous faire mourir un petit peu parce qu'il y a des commerces qui sont très peu touchés, les commerces de bouche. Moi, je vois le boulanger, le boucher, ils cartonnent parce que les gens ont besoin de manger, et comme ils ne peuvent pas se faire plaisir au niveau des loisirs, ils se font plaisir au niveau du manger, ok. Mais il y a des commerces comme nous où on est en train de mourir. Mais je vous assure, on est en train de mourir. Moi, je fais des journées à 11 euros par jour. Je ne peux pas payer mon loyer qui est à 600 et quelques euros. À la fin du mois, je ne pourrais pas payer mon loyer si ça continue. Alors, il faut qu'ils trouvent des solutions. Soit ils font une vraie mesure en disant, on confine durement, il y en a pour un mois et demi, deux mois. Mais pendant ce temps-là, on va mettre le paquet sur la vaccination et après, on rouvre. Je vous assure, Pascal, ils sont en train de nous tuer.
Votre témoignage est terrible. Votre témoignage est terrible, Franck.
Pascal, il y a quelque chose qui me scandalise. On a l'impression que le mot confinement, il est devenu tabou. Mais à un moment donné, je vous rappelle qu'en Israël, ils ont vacciné et confiné. Ils ont fait la double lame. Oui,
non, mais là, ils ont fait une vraie stratégie, Israël. C'est une vraie stratégie. Confinement, traçage. Ouais. Et ils ont même le passeport vaccinal.
Et ils ont le passeport vaccinal. Nous, on n'est pas capable de faire ça, alors qu'on est la France, le pays de Pasteur,
le pays de Marie Curie, d'accord ? Le Pierre et Marie Curie, à un moment donné...
Oui, on est un pays de plus grand chose, vous savez, j'ai envie de dire, parfois...
Le roi est nu, je peux vous dire que le roi est nu, le roi est bien nu. Mais là, il faut faire quelque chose. On est en train, je vous assure, petit à petit, on est vraiment en train de nous tuer un petit peu. En fait, je vous explique, les gens ne vivent plus. Les gens, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, ils rentrent chez eux, basta. Les loisirs, il n'y en a plus. Il n'y a plus que le samedi ou le dimanche qu'on peut éventuellement faire une petite sortie. D'accord, le dimanche, c'est pour ça que le dimanche, il y a tellement de monde. Moi, dimanche, je me suis baladé avec ma femme et mes enfants à Lyon. C'était noir de monde. Mais noir, place Bellecour, vieux Lyon, mais noir de monde. Bah, les gens, ils profitent sur ce qu'ils peuvent. Mais le reste du temps, mais c'est métro, boulot, dodo. C'est même plus rigolo.
Merci vraiment de votre témoignage et courage à vous, parce qu'on sent dans votre voix... à la fois la colère et puis l'inquiétude. Israël a déjà vacciné un tiers des habitants et plus de 4 millions de personnes, la moitié de la population, ont reçu une première injection. Le gouvernement a ainsi levé une grande partie des restrictions. L'étude israélienne publiée hier compare 600 000 personnes vaccinées à 600 000 personnes qui n'ont pas reçu une injection. Et effectivement, le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 94% selon cette étude. C'est une vaste étude israélienne qui confirme ces résultats qui sont très prometteurs. Les passeports vaccinaux ont notamment ouvert la voie à la reprise des concerts, alors que nous, la discussion existe en France. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il nous reste quelques minutes pour évoquer Jean Castex ce soir. Pascal est avec nous, qui est délégué médical à Saint-Étienne. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Pascal. Bon, c'est pas la première fois qu'on se parle. Hein.
Exactement. Vous nous appelez régulièrement.
Oui. Agiter le peuple avant de s'en servir.
Agiter le peuple, c'est-à-dire.
Avant de s'en servir. C'est-à-dire. Ça, c'était Alexis de Tocqueville.
Qui disait ça?
Voilà, vous agitez le peuple avant de s'en servir. Voilà, ça fait un an qu'on a une narration un peu traumatique de la peur. Vous voyez, j'écoutais l'auditeur précédent qui vous lui disiez qui semble être un peu, il a le moral un peu dans les chaussettes, bien sûr, parce que depuis un an, on a tout essayé et puis il n'y a pas grand-chose qui marche. Force est de constater que le confinement, le déconfinement, le reconfinement, etc. Mais ce qui est navrant avec ces politiques, c'est que bon, être dans l'erreur, si vous voulez, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'en sortir. Et on ne peut en sortir que lorsqu'on admet qu'on y est entré. Vous êtes d'accord ?
Oui.
Voilà. Eh ben, nos politiques s'évertuent dans une méthode qui visiblement ne porte pas ses fruits, d'accord ? Parce que c'est pas aussi simple qu'ils voudraient nous le faire croire, quoi. La virologie, c'est plus compliqué que ça. Mmh. On le voit, les mutants, les variants.
Non, mais tout le monde s'est improvisé épidémiologiste. Voilà. Mais c'est pas. Moi, je vais pas sur ce terrain-là d'une certaine manière.
Non, mais sans improviser épidémiologiste. Non, mais force est de constater aujourd'hui qu'on a beau mis les gens sous cloche, ça n'a pas réellement porté ses fruits. Alors peut-être que là, avec un climat qui va s'améliorer, et comme l'année dernière, l'épidémie va se tasser, c'est tout. Et c'est peut-être ce qui se passe dans les pays, on parle de l'Australie,
L'Australie, c'était un confinement dur. À Melbourne, tout a été fermé, effectivement, et c'est Covid zéro, et les frontières également sont fermées. C'est pour ça que c'est différent, parce que c'est... Ouais, mais c'est une île. C'est-à-dire que les frontières sont fermées, personne ne rentre, et t'as un confinement dur. Donc là, il n'y a plus de Covid sur le pays, dans le pays.
L'hygrométrie est moindre, là, quand on arrive dans des périodes un peu plus estivales, donc moins favorables, quand même, au virus, quoi. Donc,
Vincent est avec nous, ce sera le dernier témoignage. Merci, Pascal. Vincent, bonjour, vous habitez Caen? Vous êtes courtier en assurance, sans doute.
C'est ça, exactement, Pascal, tout à fait.
Merci d'être avec nous, c'est un beau métier.
Je vous en prie. Pardon ?
Je dis, c'est un beau métier, courtier en assurance.
Oui, tout à fait, complètement, complètement.
Votre sentiment.
Avec passion. Alors moi, mon sentiment, alors j'ai longuement hésité à vous appeler parce que, en fait, je me suis dit, je vais me retrouver dans une position. Votre auditeur juste avant parlait d'une peur qu'on essaye d'insuffler, peut-être à juste titre, mais il y a aussi une culpabilité qu'on essaye d'insuffler à ceux qui ne seraient pas, alors d'accord, ou en tout cas qui s'opposeraient le mot effort, mais qui en tout cas mettraient une interrogation sur l'efficacité de ces mesures. Moi, pour ma part, je voudrais bien qu'on parle du taux de survivance. Ça fait un an que le monde est frappé par cette maladie. On nous abreuve de chiffres, vous en conviendrez. Alors, dont la véracité est variable en fonction du vent.
Non, mais les chiffres sont bons. Chiffres sont bons.
Oui, on est d'accord.
Mais ils ne veulent rien dire. Parfois, 31 000 cas, ça, je ne veux pas dire... Il faudrait dire combien de cas graves.
Exactement. Maintenant, si on a un taux, le taux de survivance, moi, ça m'interpelle. Quand on a des populations comme les populations américaines ou françaises avec des taux qui sont de l'ordre de 99,971, je grossis volontairement le trait. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté à une maladie qui met en danger, à mon sens, la population comme ça a pu être le cas avec la grippe espagnole ou d'autres ou la peste, d'autres pandémies qu'on n'a pas connues, mais que nos parents ou arrière-grands-parents ont pu connaître. Je pense qu'aujourd'hui, il faut lâcher un peu la grappe aux gens. Il y a une ambiance qui est en train de se... Les gens étouffent. Vous parliez des commerçants. Moi, j'en fréquente. Je suis courtier. J'assure que des professionnels. Les gens étouffent. Les gens n'en peuvent plus. Et je pense qu'il faut en faire appel à la responsabilité de chacun. Celui qui veut se confiner, ma foi, il se confine. Et c'est tout à fait défendable et honorable. Il n'y a pas de raison de s'y opposer. Il faut même l'aider, hein, en mettant en place des systèmes de livraison à domicile. Mais ceux qui veulent vivre normalement, ma foi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de le faire. Quoi.
Eh ben merci Vincent de ce témoignage. Et vous étiez le dernier auditeur. C'est l'heure du débrief avec Laurent Tessier. C'est toujours un bon moment, disons-le.
J'espère.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir aujourd'hui au 3210 et sur nos réseaux sociaux.
Le maire de Bron dans le Rhône a été à nouveau menacé, même agressé verbalement, physiquement. Ce n'est pas la première fois qu'il est la cible de menaces. Vitres brisées, rétroviseurs cassés. La voiture de Jérémy Bréau a été endommagée à la sortie d'une réunion.
Une violence qui ne surprend pas Maurice. Il habite la ville de Bron depuis 42 ans avec un triste constat.
17 cambriolages en 42 ans.
Ah oui, effectivement.
Donc ça fait pas mal. Et on a essayé de vendre, c'est invendable.
Mehdi est aussi habitant de Bron, il a répondu à Maurice.
Bon, après, je sais pas ce qui s'est passé chez vous, 17 fois cambriolé. Moi, je suis un jeune de Bron, je suis un jeune des quartiers, je me suis déjà fait cambrioler, ça va pas être des jeunes de chez nous. Donc parfois, ça l'est, parfois, c'est d'autres personnes.
Vous aussi, Mehdi, vous avez été cambriolé ?
Moi, je me suis fait cambrioler.
Mais combien de fois ?
Moi, je me suis fait cambrioler 2 fois et mes voisins 4 fois.
Le maire de Bron, Jérémy Bréau, avait co-signé en début de semaine une tribune dans le Figaro. Menacer un maire, c'est menacer la République. Nicolas D'Aragon, maire de Valence, est co-signataire également. Il a lancé sa proposition dans l'émission pour répondre en partie à chaque délinquant.
Le sujet, c'est qu'il doit être sanctionné, évidemment, avec de la prison, avec une amende, avec des dommages et intérêts, mais il doit être aussi déchu de ses droits civiques, tout simplement parce que s'en prendre aux représentants de la République, c'est nier la République. Et donc, c'est nécessairement se voir privé d'y participer pendant un certain temps.
On a aussi parlé football ce midi.
Bon, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est la ville de Karim Benzema quand même. Hein. C'est là où il a grandi.
Oui, c'est pas le meilleur fleuron.
Ah, restez bien avec nous, je sens que ça va être passionnant, n'est-ce pas Christian Olivier, chef du service des sports de RTL ?
On va se régaler, je vous l'assure.
Alors, ce ne sont plus les auditeurs ont la parole, Greg Caranoni. Changez les jingles.
Ouh, refait le match.
Oh, bah pourquoi vous dites ça, Karim Benzema, c'est quand même une belle image. C'est
oui,
un joueur
d'accord.
De football qui a réussi.
Admettons.
Bah, admettons, il est meilleur avant-centre de l'histoire du football français. Et il joue au Real Madrid. C'est difficile quand même de faire mieux.
Eh ben alors justement. Donc, s'il est à Madrid, bon vent.
Allez, bon vent. Ce jeudi, c'est le grand retour de notre réalisateur Greg Caranoni.
Bon, monsieur Caranoni, vous étiez où ? Ça ne me regarde pas, mais vous n'étiez pas là hier. Monsieur Boris Pirédou était là.
Exactement.
On a une petite playlist de Sheila grâce à cela.
Ah, j'ai échappé à ça.
Peut-être.
Je suis passé à côté
vous
de ça.
Vous avez échappé
tout.
À ça.
Non, non, je voulais dire, je suis passé à côté,
pas
malheureusement.
Ça, c'est très laid ce que vous venez de dire.
Oh, quel vilain ce Greg Caranoni. Allez, pour vous, c'est cadeau, une musique de Sheila.
Ah, super.
Ça fait du bien d'écouter un peu de musique, mais encore une fois, Pascal, La France est triste à cause de vous.
Vous ne chantez pas ?
Non, je ne chante plus depuis que vous n'étiez pas là hier et avant-hier.
Quel dommage.
Non, pas vous, pas maintenant. Récoutons alors vos plus grands succès.
Je ne t'écrirai plus, je n'en ai Allez. Plus besoin.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson du 20e siècle quand nous pouvions encore nous retrouver le soir. Représente Pascal Pro.
Elle est là, Flavie, ou pas?
Elle n'est pas là encore pour l'instant.
Elle arrive.
Bien sûr. Ah.
Mademoiselle Flamand.
Venez.
Elle aurait adoré vous voir faire ce geste de la main.
Studio.
Connectez-vous vite sur RTL.fr pour voir Pascal danser, si on peut dire.
A tout de suite.
C'est là que sur elle je suis tombé, elle est si. J'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé, mais tout est permis dans.
Cette soirée-là.
Tu peux envoyer la pub, Pascal, c'est bon ?
Ensemble, toi et moi,
c'est pour ça.
On aime tous ces soirées-là.
Inarrêtable.
J'adore ça, moi, je suis...
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.